Alors, merci de m'avoir invité. C'est comme ça qu'on commence les discours. Je suis effectivement franco-chilienne. Je suis secrétaire générale du planning familial et je suis aussi membre de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France. Je ne suis pas politologue, mais je suis provocatrice. Donc, mon intervention, elle va continuer, même si on ne s'était pas concerté avec Sophie. Elle va aller dans une première partie dans la même direction que Sophie, pour, dans une deuxième partie, être tout à fait différente. Je veux parler aussi de la légitimité que j'ai aussi aujourd'hui de parler du Chili, Chili que j'ai quitté il y a 32 ans. Donc, mon intervention, elle va être partiale et partielle, et je le revendique. Partiale parce que, bien entendu, je suis la politique chilienne depuis longtemps, mais je ne vis pas au Chili. Donc, forcément, il y aura des choses que je ne connais pas ou peut-être que j'ai mal comprises. Et partielle parce que je vais vous parler du sujet qui me tient à cœur, qui est la place des femmes dans la société, la place des femmes au Chili et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, comme disait Sophie, et comme par hasard, nous commençons par le même chapeau, ce n'est pas, finalement, ça ne va pas être un hasard, c'est que Michelle Bachelet, c'est un symbole d'une réconciliation historique, pour moi. Pourquoi? Parce que, finalement, ça rassure la droite et la gauche, selon moi. Ça rassure la droite, parce que Michelle Bachelet a démontré qu'elle peut tourner une page. Et ça rassure la gauche, à mon avis, parce que nous avons, j'espère, une l'illusion qu'elle ne va pas tourner la page complètement. Ça sera le rempart contre l'impunité. Elle l'a démontré récemment, quand elle s'est opposée à la décision du président Lagos d'amnistier M. Contreras, responsable de la mort de Tucapel Jiménez. C'était pour moi un symbole fort de Michelle Bachelet en pleine campagne électorale de dire haut et fort qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision-là. Michelle Bachelet, une femme en politique. Je me pose la question, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, comment, jusqu'à présent, depuis le début, Michelle Bachelet reste en haut des sondages de façon incroyable, et cela au-delà de son programme. Parce que selon moi, le programme, peut-être je me trompe, c'est pour ça que je suis partielle, elle n'a pas, elle s'est pas présentée à la candidature suprême, comme on dit, avec un programme. Donc pour moi, ce programme, jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais pas. Je connais des bribes de programme sur certains points, mais je ne connais pas un programme global. Donc finalement, c'est, à mon avis, le seul fait d'être une femme répond d'ores et déjà à des aspirations profondes de la part des électeurs et surtout des électrices à donner une place à ces revendications féminines face aux discriminations de genre. C'est un symbole au-delà de son programme. Elle incarne l'espoir d'accéder donc à des autres responsabilités de l'État. Si elle est élue, elle deviendrait la première femme à présider un des pays les plus conservateurs d'Amérique latine. Comme le disait Sophie, une femme, une mère, un pilier de la famille chilienne. Pour cette réunion, j'ai lu quelques bribes d'un livre qu'on m'a recommandé, que je vous recommande, mais je n'ai pas eu le livre. C'est une anthropologue chilienne, elle s'appelle Rosa Montesino, un livre extraordinaire qui s'appelle Huacho y Madre. Huacho y Madre, en français, je pense que c'est bâtard et mère, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'improviser anthropologue parce que je n'y connais rien, mais en tout cas, il y a la musique qui m'est restée, et de dire que dans la société chilienne, c'est pas tellement le marianisme. Je crois que la femme, les Espagnols sont arrivés au Chili, ils ont copulé avec les Indiennes, et puis elles sont parties. Donc la femme chilienne est responsable du foyer depuis très très longtemps. Elle est seule responsable. Donc quelque part la figure du père, de l'homme, du père, est absente. Et elle incarne plein de choses. Quelque part, on dit, oh là là, comment c'est possible qu'avec tout ce qu'elle incarne, elle soit quand même dans l'image populaire aussi, entre guillemets, désirée. Elle est seule. Donc, elle est non mariée. Et là, je pense, je ne sais pas très bien son histoire, mais je pense qu'elle a 3 enfants avec des pères différents. C'est pas mal. Elle est indépendante financièrement. Et elle a su s'imposer avec, je tiens à le dire, avec un soutien un peu tiède de son parti. Je considère que c'était tiède, puisque ce n'était pas elle qui était envisagée comme candidate du parti, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur. Et finalement, quand elle s'est imposée, parce que les sondages ils étaient plus têtus que les responsables du parti que je ne nommerai pas, dont je fais partie, et elle doit être la première partie, donc les primaires, avec une autre femme. Quel destin ! C'est-à-dire les primaires, 2 femmes qui se disputent la candidature ultime. Et l'autre femme, elle représente tout ce que la femme, soi-disant chilienne, doit représenter. Elle est mariée, elle a des enfants, elle va à la messe, elle est contre plein de choses valoriques, contre les divorces, contre l'avortement, contre beaucoup de choses. Et finalement, Michel Bachelet arrive à la battre, sans la battre finalement, parce que les primaires n'ont pas eu lieu, et Michel Bachelet s'est imposé. Donc, une femme dans le machisme ambiant dans la sphère politique. Je dirais, et là tout de suite pour le débat tout à l'heure, que je ne suis pas si d'accord avec ce que dit Sophie. Parce que je pense que le président Lagos a nommé Michel Bachelet à durée déterminée. Mets-moi 10 minutes parce que je n'ai pas le temps de finir. 10 minutes qui me restent. À durée déterminée. Parce que quand Michel Bachelet a été nommé ministre de la Santé, c'était en fait, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête M. Lagos, le président, mais je pense qu'il n'avait pas dans la tête de nommer Michel Bachelet ministre de la Santé. Et finalement, aussi têtu qu'ils sont les sondages, et les gens qui ne disent rien mais qui sont têtus, et il la nomme et il lui donne 6 mois pour finir avec les queues des dispensaires. Tâche impossible, tellement impossible qu'elle n'a pas fait. Mais finalement, elle ne s'est pas dégonflée. Elle a dit, c'est impossible à faire, mais je vais défier ce pari. Et finalement, petit à petit, les gens se sont dit, pourquoi ? Tout d'un coup, on donne une durée déterminée à une ministre femme dans ce ministère-là. Étrange. À se demander que les femmes doivent être plus capables que les hommes pour être nommées ministres. Et je vais piquer une phrase de François Giroud qui disait « Le jour qu'on nommera une femme incompétente à un poste de responsabilité, ce sera la parité. » Et je trouve qu'elle a été très forte. Après, ministre de la Défense, un gros pied de nez à ses bourreaux quand même, parce que, je ne vais pas répéter ce que Sophie a dit, vous connaissez l'histoire de Michel Bachelet, mais n'empêche, c'était quand même un grand pied de nez. Michel Bachelet est issu de la société civile. Pourquoi je dis ça ? Parce que elle n'est pas dans les sphères dirigeantes du parti. Elle était plutôt médecin pédiatre. Je pense que c'est une femme de pouvoir, parce qu'arrêtons de dire des bêtises, hein, les femmes qui arrivent à ce niveau-là sont des femmes de pouvoir. Les autres, elles n'arrivent pas, parce que c'est pas facile. Donc il faut vouloir le pouvoir autrement. Et elle est militante d'une ONG. Elle travaille après les salariés d'une ONG et elle arrive à ses postes de responsabilité. Donc finalement, elle a un certain, c'est pas le fait qu'elle soit bien ronde, bien grosse et maternelle, c'est qu'elle sait écouter les gens. Parce qu'elle est, elle a été au travail dans les dispensaires avec des femmes, avec des enfants, avec des hommes, et elle sait ce que c'est la pauvreté au Chili. Donc sa candidature, moi je pense qu'elle coïncide avec une aspiration davantage d'égalité entre les hommes et les femmes au Chili, comme ailleurs d'ailleurs. Même si certaines traditions patriarcales pèsent. C'est un accident? Je pense que oui, parce que finalement, les révolutions se font toujours par un accident. Je pensais à la Tartatin, qui évoque très bien un accident. La Tartatin, on s'est trompé en la mettant au four. C'était un accident et finalement, c'est un excellent dessert. Donc, c'est un accident, peut-être, mais c'est un excellent dessert. Je pense que, est-ce que c'est un aboutissement? Mais pas du tout, c'est pas du tout un aboutissement. Parce que, au cœur de l'égalité homme-femme, il y a les droits qui sont des droits fondamentaux des femmes. Et quels sont ces droits fondamentaux des femmes? C'est tout simplement le droit de disposer de leur corps. Droit fondamental pour pouvoir aller travailler, faire de la politique, espacer les naissances et un peu contrôler ce que va être la vie d'une femme libre. Est-ce que c'est vrai au Chili? Non, pour l'instant, être femme, c'est un handicap. De tout ce qu'on vous a dit, même pour ce qui sont les droits fondamentaux des femmes, donc les droits par rapport aux droits sexuels et reproductifs, c'est un handicap. Au Chili, par exemple, vous savez que pour les femmes en âge d'avoir des enfants, c'est plus cher que pour les hommes de cotiser à la santé. Les ISAPE, donc c'est plus cher pour les femmes pendant qu'elles sont entre 20 et 45 ans, c'est plus cher les cotisations parce qu'elles sont elles peuvent être enceintes. Et être enceinte, c'est un handicap pour les boîtes privées qui donnent accès à la santé. Donc, nous sommes là. C'est pas une responsabilité collective au Chili, c'est une responsabilité qui incombe seulement aux femmes. Donc, comme je vous disais, dans les droits à disposer de son corps, les femmes, il y a la contraception. Pourquoi je parle et je reviens toujours à mon dada de la contraception? Il y a beaucoup ici qui me disent encore une fois, elle a été féministe à son dada. Oui, d'abord, je pense que c'est la grande révolution du XXe siècle. Si les femmes aujourd'hui sont en politique, c'est parce qu'il y a eu cette grande révolution qui permet aux femmes de vivre leur sexualité et d'avoir des enfants quand elles le désirent, pour certaines. Mais la contraception, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que d'abord il y a la contraception, et ensuite il y a les accidents de contraception. D'ailleurs, j'ai envoyé, dans ce qui concerne les accidents de la contraception, une lettre ouverte au président de la République, Ricardo Lagos, au sujet d'un débat qui m'a fait monter le sang au cœur et plus haut encore. C'était au sujet de la pilule du lendemain. Grande campagne au Chili. Je me suis dit, quelle révolution et quelle chance pour les femmes que la pilule du lendemain soit accessible au Chili. Finalement, la campagne est faite. J'ai vu de mes propres yeux les affiches qui appelaient cette campagne. Et une forte pression des plus conservateurs chiliens, de l'Église catholique en premier, bien sûr, l'Opus Dei en deuxième, bien implanté. Et quelle ne fut pas ma surprise quand le sous-secrétaire, je ne sais pas comment on appelle ici, de la santé, il est mis à la porte en disant qu'il a été plus loin que ce qu'on lui avait autorisé. Mensonge, puisque cette campagne-là, elle était faite et toutes les affiches étaient au sous-sol. Donc, à quelques mois de la nouvelle élection présidentielle, je trouve que le président de la République chilienne, il n'a pas eu le courage de dire, je l'ai décidé, je l'ai fait, j'ai 60% des gens qui m'appuient, c'est le moment de ouvrir ce débat-là. Je pense qu'il faut avoir un courage politique. C'est ce que a fait en France Giscard d'Estaing quand il a envoyé Madame Simone Veil à faire une loi sur l'IVG. Ce qu'il a fait après M. Badinter quand il a fait une loi contre la peine de mort. Ces deux lois, elles étaient absolument contraires à ce que les gens pensaient. Et finalement, c'est deux lois qui sont extrêmement importantes dans le point de vue des valeurs, à changer les mentalités. Aujourd'hui, vous, si vous faites un sondage, le sondage est complètement changé. La majorité des gens en France sont pour qu'il existe une loi sur l'avortement, et la plupart des gens sont pour qu'il existe une loi contre la peine de mort. Cependant, les traditions sont têtues au Chili, et elles pèsent fort sur les femmes. Là, les Chiliennes sont particulièrement touchées. C'est la première fois que je parle depuis 32 ans, donc je revendique 3 minutes en plus.
Tu reprends dans le débat après.
Les Chiliennes sont particulièrement touchées aussi par les violences. Une femme sur deux au Chili est victime de violences conjugales. Une femme sur deux, ce qui est énorme. Une loi a été votée, me dira-t-on. C'est vrai, une loi a été votée et immédiatement j'ai fait une autre lettre ouverte, celle-là elle n'a pas été publiée, parce que cette loi courageuse présentée par 3 députés du PPD et du PS a été modifiée chez monsieur, parce qu'ils sont en majorité, monsieur les sénateurs et monsieur les députés. Pourquoi elle a été modifiée? Parce que cette loi-là, elle a certes condamné de façon plus importante les auteurs de violences, mais on ne parle plus de violences contre les femmes, on parle de violences intrafamiliales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne reconnaît pas au Chili qu'il y a un problème de violence contre les femmes et on dit qu'il y a des violences intrafamiliales, donc le papa qui met un coup de pied à l'enfant, ça rentre dans cette loi-là et on ne parle pas de violence ou de discrimination contre les femmes. Nous sommes donc en 2005 et les femmes ont le droit de vote. Au Chili, excusez-moi, elles votent séparément que les hommes. Ça, pour moi, c'est un scandale. Quand je vois dans les écoles des files d'attente que des femmes d'un côté et que les hommes d'un autre, je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu changer dans le symbolique. Ça n'a aucune importance, mais le symbolique, il compte. Les femmes ont le droit d'avoir leur propre compte en banque et il est discriminatoire et illégal de licencier une femme parce qu'elle se marie ou qu'elle est enceinte, même si ça se pratique encore. Les droits sont à peu près, ce droit-là sont à peu près reconnus dans les pays latino-américains, mais le droit à disposer de leur corps va beaucoup moins de soi. On considère cela trop controversé, trop culturel et trop intime. Un sujet pas politique, à ignorer, bien sûr, ça concerne les femmes. Le silence prévaut et des vies de femmes sont menacées, détruites, et l'avortement est encore interdit dans plusieurs États latino-américains, dont le Chili. Ces femmes qui ne peuvent avoir accès à un avortement sûr ont besoin de notre soutien. Parce que les femmes au Chili, et je vais vous donner les chiffres si des fois vous avez oublié, pour 16 millions d'habitants, il y a 160 000 avortements par an. En France, nous sommes 60 millions d'habitants et il y a 200 000 avortements par an. Au Chili, les femmes riches le font dans des cliniques privées avec tout le confort. Les femmes pauvres, elles en meurent. Donc, je dirais que je ne crois plus à ce discours qu'il faut respecter la culture et la religion et à ce prétexte-là refuser aux femmes le droit à l'égalité. Et le droit à la légalité passe par le droit à une santé sexuelle et reproductive. Je crois que ce n'est pas dans le programme de Michelle Bachelet. Elle l'a dit. Je crois que ça, elle est assez honnête. Ce n'est pas dans le programme, mais je pense qu'il faut qu'on soit très fort pour lui dire qu'elle fait un mauvais calcul. Que dans cette période-là, il faut qu'une femme à la présidence de la République prenne en compte les droits des femmes pour qu'il y ait une vraie égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays. Merci.
Merci Maïté.